Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ce profil d'attaquant qui n'en est pas vraiment un.
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
Il a pris un petit peu cette base-là pour en fructifier les fruits.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h sur RMC. Autour de la table ce soir, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Jonathan Macardy, bonsoir Jonathan.
Salut tout le monde.
Impression de retrouver l'after du week-end là.
C'est plaisir, on rentre un peu à la maison.
Et Jonathan et Kevin, mon duo.
Presque le week-end, le jeudi soir.
C'est vrai, mais c'est pas le week-end.
Les soirs d'Europa League.
Pour ceux qui ont la semaine de
nous, c'est plutôt les soirs à l'époque de Amiens-Brest, quoi. C'était plutôt
ouais,
ça,
c'est
quoi.
Vrai, c'est vrai. Est-ce que c'était mieux ou moins bien que les jeudis noirs de l'after?
Ah non, il n'y a rien de mieux que les jeudis noirs de l'after.
C'est vrai, c'est vrai. C'est
là
vrai.
Que tu pètes l'audience.
Hein. Oui, c'est vrai.
Oussem Le Seyaf est là également ce soir. Salut Oussem.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Salut Oussem. Le programme de Génération After jusqu'à 22h. On va lancer le choc du week-end en Ligue 1. Marseille-Monaco, Igor Tudor. On l'écoutera, tiens, il était attendu en conférence de presse.
Ah ouais.
T'as entendu?
Bah, j'ai regardé ça.
Pas compris.
Ouais,
ouais. Il aime bien les journalistes.
Pas compris. Et bon, il les a laissés sur une petite plaisanterie. C'était pour essayer d'un peu détendre l'atmosphère, mais bon.
On en parlera. 20h30, Fred Hermel sera avec nous avant le derby. 21h, quart de finale Coupe du Roi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Camavinga est-il titulaire pour la 5e fois consécutive? Il se passe peut-être quelque chose au Real, hein, avec Kroos et Modric. On en parlera avec Fred. 20h45, un invité dans Génération After, gardien numéro 1 du Toulouse Football Club, Maxime Dupé, sera à nos côtés, titulaire pour la première fois en Ligue 1 à l'âge de 29 ans. Et puis à 21h, Avid Oussem, le PSG doit être plus clair avec ses jeunes joueurs.
Oui, parce qu'apparemment, ils sont plus clairs avec les jeunes des autres. Faut peut-être qu'ils soient clairs avec leurs jeunes à eux.
Peut-être que les jeunes des autres sont meilleurs que leurs jeunes à eux.
C'est la question qu'on va poser.
Ce sera à 21h. À 21h30, on va parler d'un club en danger, Montpellier. Une victoire sur les 11 derniers matchs de Ligue 1. Romain Pitot contesté, Laurent Nicolin, qui ne l'invite pas à un déjeuner avec des joueurs. Êtes-vous très inquiet, supporter révolté? Appelez-nous au 32-16. Et puis le Mercato Show, bien sûr. Point chaud de cette Génération After. La suite du feuilleton. Mofi, Dieng, Marseille, Lorient, Nice. Pas terminé cette histoire, les gars. Rien n'est fait. Pour le moment, on vous donnera les dernières informations. Et puis à 22h, Gilbert Bribois pour l'after. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Salut Gilbert.
Bon, déjà, allez sur Twitch parce que la Génération After, c'est en train de partir en vrille au niveau vestimentaire. Hein. parce que là, le sweat de Jonathan, qu'est-ce que vous en pensez?
À nouveau, hein.
C'est
étonnamment sobre en bas.
Le sweat zèbre.
Oui.
C'est exactement ça.
Il va bien.
Oui. C'est parce que j'avais Oussem allait mettre
le valide. Niveau ce soir.
Moi, j'aime bien un peu Safari, un peu. Ouais, j'aime bien. Ça fait un peu Safari, j'aime bien.
Faut savoir que c'est une marque qu'on ne citera pas, mais qui est totalement Génération After pour le
coup. Bien sûr, oui.
Et puis, il y a la veste tapis berbère d'Oussem aussi.
Exactement. Ça, c'est de la création, les gars. C'est du tapis berbère, exactement. Bon, c'est une création berbère.
C'est vrai que je suis assez sobre, quand même.
C'est vrai que toi, t'es assez sobre.
Il y a juste un petit cœur en surimpression, tu vois, qui.
Tu pourrais traîner avec Gilbert. Et Gilbert a mis un pull Génération After aussi.
Kevin, c'est sobriété, efficacité. C'est toujours.
Merci. Ça, c'est bon.
Ça te plaît. Gilbert, il a mis un pull Génération After.
Efficacité.
Mais Gilbert, depuis 2-3 ans,
c'est vrai
plus vieilli, plus
il est plus les générations inférieures.
C'est vrai.
Peut-être des partenariats qu'on connaît pas, je sais pas.
Je récupère les vêtements de mon fils. D'habitude, c'est l'inverse.
Ouais.
Alors, à 22h, le Mercato, Stéphane Guy, Daniel Riolo seront là. Vous allez parler de l'OM, on en dira aussi un mot tout à l'heure. Et puis, on va également parler d'Italie, parce qu'il se passe des trucs incroyables en Italie ces temps-ci, entre actes racistes, procès de la Juve, sanctions à venir pour certains joueurs. On aura des explications avec Yoann Crochet. Et puis alors à 23h, on vous donne rendez-vous parce que là, on est donc le 26 janvier, il y a un peu plus d'un mois, c'était la finale de la Coupe du Monde. On va revenir sur la Coupe du Monde ce soir, et oui, parce que Georges Quirino Chavez, notre Argentin, est à Paris.
Le Nord.
Si.
Vous allez lui mettre la musique ou pas?
Et il est assez énervé parce qu'il n'a pas trop compris comment pour les Français on réagit comme ça.
Mais il a raison.
Mais attends, vous êtes sérieux là? Tu veux qu'on réagisse comment en fait?
C'est du chambrage.
Excuse-moi,
c'est du sport, ça n'a pas non plus dépassé les limites.
Les Français, ils ont chambré les Belges sur le seum.
Oui, mais il faut accepter qu'ils aient le seum, c'est tout.
Donc voilà, on va parler de tout ça. On va parler du foot en Argentine, de foot de club aussi en Argentine. On aura même un spécialiste du foot croate qui va passer. Donc ça va nous ramener un petit peu à la
conférence de presse d'urgence de Roman Riquelme en ce moment. Genre, je vous donnerai les dernières
d'urgence. Les
oui, oui.
Mais bon, quelles en sont les raisons
la situation de Boca, le mercato, Riquelme qui est en charge de Boca Junior. Donc ça fait un peu tout le monde est en alerte là-dessus sur les réseaux.
Ah bon?
Moi, j'étais pas en alerte.
Les meilleurs moments de la conférence.
T'es pas connecté, Nico.
Ah, mais Georges aura les infos tout à l'heure. Donc voilà le programme à partir de 22h tout à l'heure.
Avec Daniel et Stéphane Guy à 22h. Merci Gilbert, à tout à l'heure. Vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio, RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires. C'est donc parti. Alors je voyais là sur Twitch, on n'est pas encore en direct parce qu'on diffuse sur RMC Sport. Le championnat saoudien. En tout cas, non. Les matchs de Al Nassr.
Oui, parce que c'est un match de coupe en plus qu'on diffuse.
Il est éliminé? Non, c'est un match aller, c'est ça.
C'est le match
Cristiano. Battu par Al-Ittihad.
C'est la mi-temps là?
C'est la mi-temps.
D'accord. Et 1-0, 2-0?
2-0 pour Al Ittihad, dirigé par Nuno Espirito Santos.
Exactement.
Face à Rudy Garcia.
Quel duel de coach.
Le projet.
Tu revois des
les projets sportifs.
Donc on s'intéresse vraiment au championnat saoudien.
Allez, c'est parti.
Ça à Ronaldo.
Ouais, Marseille-Monaco, bien plus passionnant. Samedi soir à 21h, le troisième contre le quatrième, rencontre majeure dans la saison marseillaise. Certainement Marseille qui peut mettre Monaco à 8 points. Monaco qui peut revenir à 2 points de l'OM. Écoutez d'abord Igor Tudor. En conférence de presse cet après-midi, il n'a pas du tout aimé les deux premières questions posées par nos confrères.
Vous ne respectez pas le match contre Monaco, l'importance de ce match. Toi, tu me parles de mercato, toi, tu me parles de la Coupe de France. Quelle actualité? C'est votre actualité. Il y a un gros match contre l'AS Monaco. Et sur les deux premières questions, vous me parlez d'autre chose. Il faut se concentrer sur ce match qui arrive et qui est très important. Vrai ou faux?
Bon, forcément, si on est journaliste, on a un regard un peu critique par rapport à sa réaction.
C'est de la com.
Je sais pas si c'est la meilleure des com. Après, bon, on va pas analyser la com d'Igor Tudor, mais tu dis, il peut balayer une question tranquillement, donner une réponse tiède sur Paris.
Tout à fait.
On fera ce match dans 15 jours. On en reparlera, il n'y a pas de problème.
Il préfère s'adresser à son
vestiaire. Les sourcils. Et peut-être qu'il envoie aussi un message à son vestiaire.
C'est ce que j'allais te dire. Il préfère s'adresser à son vestiaire à travers les journalistes.
Bon, en tout cas, ça confirme l'importance de ce match pour Marseille. Je rappelle que, les gars, on a un duel entre deux équipes en grande forme. Hein, l'OM et ses 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et Monaco, on le dit pas assez. Sa série, presque passée inaperçue, hein, 32 points sur 42 possibles. Meilleur bilan depuis la 6e journée de Ligue 1. Juste derrière le Paris Saint-Germain. Monaco groupe au complet pour samedi soir. Tout le monde est dispo. Ça valait une petite information de Philippe Clément qui a dit à chaque fois que j'ai mon groupe au complet, j'offre des bouteilles de champagne à mon staff technique et médical. Côté marseillais, Clos de retour dans le groupe après sa blessure. Doute en revanche sur la participation de Paul Lopez. Une décision sera prise demain. Les gars, comment imaginez-vous ce rapport de force entre deux des équipes en forme de ce championnat de France de Ligue 1, Jonathan?
Écoute,
attention Marseille.
Bah attention, c'est un match qui est forcément très compliqué et puis il faut pas non plus se laisser berner par la très grande confiance qui peut se dégager d'une série de 8 victoires d'affilée. Alors certes, dans le jeu et dans le contenu, les 8 victoires, il y avait beaucoup de très bonnes choses, mais Monaco, ça a tout d'être l'adversaire piège. Alors évidemment, l'absence de Paul Lopez, si elle est confirmée, c'est un gros souci parce que Paul Lopez, sur la série du match, je pense qu'il ramène à lui tout seul une voire deux victoires. Il a été vraiment décisif, même si ses débuts à Marseille avaient été un petit peu décriés et sa fin de saison aussi. Là, il est impeccable depuis le début de la saison et on pense plus du tout au gardien qui occupait sa place auparavant. Et puis attention aussi parce que Monaco, tu l'as dit, c'est extrêmement sérieux. Alors moi, ce qui me rassure, c'est que certes Bailly, je pense que vous en avez parlé, la suspension totalement ubuesque, mais les défenseurs, la défense centrale marseillaise est au complète. Il y a le retour de Jonathan Clauss qui va être hyper important. Mais voilà, t'es face à un vrai test du niveau Ligue des Champions. Et quand on sait comment Marseille a géré ces tests niveau Ligue des Champions, bah même si 8 victoires ça donne confiance, il y a de quoi quand même un petit peu être au moins excité.
C'est exactement ça, Kevin. Je sais pas si tu veux prendre la parole, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Jonathan, c'est le premier test 2023. C'est une équipe qui est sur une bonne lancée et surtout c'est une équipe qui peut mettre en difficulté très vite ses adversaires. Moi, j'ai hâte de voir comment Marseille va gérer les espaces dans le dos avec Golovin qui peut à la fois allier le jeu au pied et puis le jeu en profondeur. Donc c'est vrai que ça va être un vrai test pour les Marseillais, surtout défensivement. Nous qui nous targuons il y a quelques semaines de dire qu'ils ont progressé défensivement du côté de l'OM, on avait peur il y a quelques mois, mais
ils ont le meilleur défenseur central de Ligue 1. Ça aide aussi.
J'ai pas le nom.
Ah bah c'est Chancel Mbemba. Pour moi, il y a pas de discussion sur le sujet. C'est le meilleur défenseur central de Ligue 1 en ce moment.
Oui, oui, mais moi je le vois même plus qu'un défenseur central. Je pense que ce mec-là, il peut même jouer milieu de terrain. Il peut.
Parfois, il joue avant-centre.
J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir comment va réagir la défense de Monaco, de Marseille, pardon. Surtout qu'à Monaco, ça va vite et ça alterne très souvent. Ben Seguir, Mbolo, Ben Yedder, Golovin, avec le banc, il y a Martins. Il y a du monde. Il y a des choses à faire du côté de Monaco.
Oui, parce que Kevin, on dit Marseille, la série est folle. Elle peut être historique en cas de victoire contre Monaco. Quand je regarde le calendrier marseillais sur ses 8 victoires. Bon, dans l'eau, il y a aussi Lorient, il y a Troyes, il y a hier, il y a Montpellier, il y a Toulouse. Il y a la victoire à l'arrache contre Monaco à Louis II juste avant le mondial, certes.
Oui, oui.
Il y a le 1-0 contre un Rennes diminué en Coupe de France.
À l'arrache, mais maîtrisé à Monaco.
Demain, ouais. Samedi soir, on va savoir ce que Marseille a vraiment dans le ventre. Ce Marseille-là a relancé totalement.
Moi, franchement, je vais pas vous contredire, mais je vois pas cette équipe de Marseille être en difficulté, en tout cas sur la première heure de jeu, au vu de ce qu'ils proposent. Moi, en tout cas, s'ils sont sur le même acabit de leur dernier match au Vélodrome, c'est impressionnant. Avec la puissance du stade, avec la puissance de cet entraîneur, en tout cas de ce qu'il influe sur ses joueurs. On l'a vu j'adore ce qu'a fait Igor Tudor. Igor Tudor, il est agressif, même en conférence de presse, il est comme son équipe en fait. Il est comme son équipe, il manque pas de respect, mais quand il a un truc à te dire, il doit le dire, et je pense que ça doit être pareil dans le vestiaire. Ça a créé d'ailleurs des frictions avec certains joueurs, avec Guendouzi, avec Gerson, etc. Mais le patron, c'est lui, il protège ses joueurs, il protège son calendrier, il protège le match contre Monaco en disant que c'est l'objectif prioritaire, parce que bien sûr, l'AS Monaco est une très belle équipe. Mais tout ça pour dire que si Marseille est à son niveau, si Marseille joue comme les derniers matchs, même si Monaco est une meilleure équipe que les derniers adversaires, Joe, tu disais Ligue des Champions, je pense que Monaco, sans leur manquer de respect, c'est plus Europa League que Ligue des Champions.
Ouais.
Mais honnêtement, l'OM, s'il joue avec la même intensité, avec la même agressivité, et surtout, on oublie de le dire, mais avec la même justesse technique que lors des derniers matchs, je pense qu'ils vont quand même poser de grandes difficultés à l'AS Monaco. Il y a une interrogation. Et vous en avez parlé aussi, c'est défensif. Alors moi, je veux pas m'acharner parce qu'il est bien meilleur en ce moment, mais Balerdi, je me rappelle à l'aller à Monaco.
C'est pas dit qui joue ?
Je sais pas, mais à l'aller à Monaco, il avait concédé un penalty, il avait été encore en difficulté, mais bon, il est mieux en ce moment. J'espère que comme l'équipe, ce sera le cas. En tout cas, je m'attends à un très très bon match qu'on va commenter avec grand plaisir sur RMC. Mais
c'est possible,
ça va être un bon
c'est possible qu'il joue, Kev, mais on peut aussi imaginer que la défense soit Kolasinac, Jigo et Mbemba.
C'est possible. C'est possible.
Ils sont tous là à part Bailly. Après, Balerdi, il est sur une série de matchs plutôt correcte. Après, on le connaît, hein. Il peut faire 89 minutes parfaites. T'as l'impression que c'est le niveau européen. Et puis, sur une cagade, il fait oublier tout son match.
Non, mais après, c'est pas le seul. T'as Nuno Mendes aussi. Nuno Tavares qui est excellent sur 89 minutes, mais qui est capable sur 5 minutes de rater tous ses centres, de s'oublier un peu défensivement, etc.
De prendre un carton rouge.
Mais là, il y a la question Kolasinac qui va se poser. Moi, je l'ai trouvé assez à l'aise sur le poste de piston gauche. Et moi, je suis pas un homme des proverbes et du fameux proverbe, on change pas une équipe qui gagne. Mais moi, franchement, je pense que je le laisse sur le coup d'envoi. Ouais.
T'as raison. Là où les gars,
la question Under et Close, on va en parler aussi.
Il est pas à 100% quand même.
Oui, mais dans les prochaines semaines.
Ouais. Là où j'ai trouvé Kolasinac énorme, c'est défenseur central axe gauche. Ouais. Alors il a fait des bons matchs en piston.
Pour moi, c'est là où il est le meilleur.
Mais tu vois, quand on parle de Tudor, de sa méthode, moi, il y a des choses quand même extraordinaires qu'il a fait, parce que avec Kevin, on avait commenté, je me rappelle, le jour même de l'arrivée de Kolasinac, en se demandant mais c'est quoi,
pourquoi
il vient, c'est la catastrophe, c'est une recrue inutile. Mais il y a des matchs là, sur certains matchs, t'as l'impression que le mec
depuis le début d'année,
c'est là, c'est d'autant plus fort Tudor, parce que je me rappelle quand Mbemba arrive, effectivement, Kevin, tu le dis, je l'ai vu, c'est pas le mec qu'il fallait prendre. Pareil pour Kolasinac.
Il n'a pas dit ça.
J'ai dit que c'était une bonne pioche pour l'OM au vu de son passé récent, notamment en Ligue des Champions avec le FC Porto, mais que c'était pas mon défenseur préféré. Voilà,
c'est le style que t'aimes pas.
Voilà, c'est le style, mais il est excellent.
Après, il te surprend pas techniquement dans sa justesse technique?
Tu sais que des fois avec sa sélection, il joue même au milieu de terrain. Tout à l'heure, vous parlez de milieu de terrain. C'est un joueur qui quand il est libéré, et c'est là où est fort Igor Tudor, c'est que par exemple Serdar Kolasinac, on va pas se le cacher, c'est pas le joueur le plus fin techniquement, même s'il a mis une belle roulette, bien sûr, c'est un joueur professionnel. C'est un joueur quand même de haut niveau. Il a joué à Arsenal, pas pour rien, etc. Mais en fait, Igor Tudor, il arrive à jouer avec les qualités de ses joueurs.
C'est ça, exactement.
C'est-à-dire que il va lui dire voilà, vas-y, cours, rentre dedans, fais-toi plaisir, Mbemba c'est pareil, monte, tente un sombrero de temps en temps, il y a pas de problème du moment que tu fais l'effort dans l'autre sens. Et en fait, il donne des ailes à ses joueurs.
C'est la mission principale d'un coach.
C'est
d'utiliser les qualités
même
des joueurs.
Under, il arrive à le faire jouer.
Piston
droit.
Je pense qu'il a jamais autant défendu
après,
de sa vie.
C'est pas, à mon avis, c'est pas amené à être perpétué.
Ça dépanne. Mais quand même, ça dépanne.
Le fait bien.
Là, pour moi, la seule question que je me pose sur ce match, c'est quelle sera la.
Teasing. On fait une pause. La question, tu la poses dans deux minutes, justement. On aura Morvan, au 32-16, supporter marseillais également. Alors évidemment, tu as lancé le débat. J'aime bien quand Jonathan voit les punchlines. Mbemba, meilleur défenseur de France, forcément, ça déroule sur Dax Studio. Comment ça? Et Kevin Danso. Bon, bref, on pourra faire
des débats.
Reste avec nous dans Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Merci d'écouter Génération After avec Kevin Diaz, Jonathan Bacardi et Oussem Moussaïef. On est ensemble jusqu'à 22h. Il y aura bien sûr un Mercato Show ce soir, encore une fois, la suite du feuilleton Mofi, Bambadien, Glorient, Marseille, Nice. Les dernières informations, on continue sur ce choc samedi soir 21h, Marseille-Monaco. Tiens, je vais accueillir Morvan au 32-16, supporter marseillais. Salut Morvan.
Salut Morvan. Tu me prendre à l'antenne.
Voilà, tu es là, c'est bon. Salut Morvan.
Ouais,
voilà. Bonsoir.
Écoutez, moi je vous appelle là pour discuter concernant le match de Monaco, un petit peu pour revenir aussi sur la conf de Tudor, parce que ça a fait parler un petit peu. Je pense que sa com à Tudor, c'est la meilleure qu'il puisse y avoir là, en l'état actuel des choses. Tout est totalement instable pour la fin du mercato. Il n'y a que peu de jours qui restent avant que ce soit bouclé. Il peut pas faire mieux comme que d'essayer de recentrer le débat sur le match de Monaco qui est en l'état actuel de la saison de Marseille, compte tenu de la sortie de la C1 et tout ça. Il faut parler du match et il faut se concentrer là-dessus. Il est obligé de communiquer comme ça. Déjà, vous l'avez dit, vous en avez parlé, ça permet à son vestiaire de se concentrer sur le match et puis ça permet d'éteindre un peu tous les feux qui sont en train de partir dans tous les sens. On le voit sur les réseaux, hein, notamment. Ça parle de Dieng qui vient, ça parle de Dieng qui revient pas, ça parle de Mofi qui vient, ça parle de Mofi qui vient pas, ça parle de Nice, ça parle de Lorient, c'est un bordel pas possible. Et je pense que là, Tudor, ce dont il a besoin, c'est que son groupe soit focalisé sur mettre Monaco à 8 points. Voilà.
Exactement.
C'est à mon avis le plus important, l'état actuel des choses. Alors après, sa com, elle est discutable dans la forme, mais dans le fond, je pense qu'il a totalement raison.
Non mais c'est intéressant.
Mettre, on va dire, l'église au centre du village. Tu vois.
C'est intéressant, Morvan. Vous vous rappelez ce qu'il avait fait avant un match avec des champions au Vélodrome cette saison contre le Sporting? Il y avait du retard.
Avec l'arbitre.
Ouais. Il avait concédé parce qu'il s'était un peu énervé dans le vestiaire. Il avait haussé le ton. Il avait gueulé un peu contre tout le monde. Il avait fait exprès pour motiver encore plus ses joueurs
dans le
tunnel. Exactement. Donc tout est comme avec lui. C'est une autre façon de communiquer.
C'est l'italienne.
Mais ce que disait tout à l'heure Kevin. Hein, ainsi, il embarque ses joueurs.
Bien sûr.
Et
un entraîneur.
Il a tout capté, le garçon.
Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, mais un entraîneur, ça doit être entraînant. Et ça, c'est une des grandes qualités
de maxime de coach, c'est ça.
De Igor Tudor. Et Igor Tudor, honnêtement, moi, je le vois sur le banc, j'ai envie de jouer pour lui. J'ai envie de jouer pour lui.
Ouais. Plus que Sampaoli?
Mais Sampaoli, le problème, c'est qu'il a ce côté irrationnel où tu vois que c'est un peu un loco, tu vois. Il comme ça, t'as l'impression que du jour au lendemain, il peut fermer la porte dans la tête. L'autre, il est quand même plus rationnel.
Vas-y, Morvan.
En vrai, les gars, Tudor, moi, j'étais un grand sceptique de Tudor. Hein. Début
comme
de saison,
tout le monde,
je suis honnête. Hein. Je suis honnête, je vais pas faire à cause. Mais j'étais un grand sceptique de Tudor. Et il avait pas forcément le CV, ou en tout cas pas ce qu'on espère en tant que supporter de l'OM, de voir arriver sur un banc. Bon, ça, c'est un fait. Mais le temps qui passe, pour faire le parallèle à Sampaoli, Tudor, c'est un Sampaoli qui maîtrise son sang.
Mmh.
Voilà. Sampaoli, c'était la folie. Il pouvait péter un câble sur
c'était
rien.
C'était trop
machin.
Parfois. Et là, tu le vois d'ailleurs assez vite.
Ça desservait.
Hein.
Ouais. Et je pense que ça desservait à la fois lui et à la fois son groupe. Ce sur quoi je suis d'accord, là, de la capacité de Tudor à être un coach actuellement bien pour Marseille, c'est tout ce que vous avez, c'est tout ce dont on est en train de parler. Cette com différente, cette manière de peut-être jouer un peu les paratonnerres. On sait que souvent, il y a des coachs qui font ça.
Ouais. Et c'est aussi, cette agressivité dans le bon sens. Tu vois, on n'est pas non plus dans le monde de
maîtriser.
Laissez finir, Morvan, vas-y, Morvan.
Ce que vous disiez sur les entraînants, ça veut tout dire et rien dire, mais tous ces joueurs-là qui sont dans le dépassement de fonction, qui sont plus que ce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient. Vous avez parlé de Kolasinac, on a tous parlé de Mbemba, qu'on a plus ou moins découvert selon qu'on soit plus ou moins porté sur la scène européenne. Under qui se retrouve piston droit. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça où, honnêtement, si on se pose la question, ces joueurs-là, en fin d'année dernière, est-ce qu'ils vont faire ce genre de choses? Jamais de la vie, on se dit oui. Il faut être honnête. Et pourtant, là, ils le font. Eh bien, le facteur qui fait qu'ils le font, c'est Tudor.
Ouais. Et puis, quand même, moi, je note que malgré les petites piques envoyées aux journalistes, en fin de conférence de presse, il va vers eux, il essaie de détendre l'atmosphère, il les prend l'humour en disant « Bon, allez, maintenant, vous ne posez pas une question pour Mofi pour terminer. » Et puis, en fait, tout ça, je trouve ça un peu dommage parce que tout le monde s'est un peu concentré là-dessus, ce qui est normal. Hein, mais on a un peu passé sous silence une déclaration qui fait plaisir à entendre. C'est certes un peu démago, mais dans la bouche de l'intéressé, on sait que c'est honnête. C'est la conférence de presse de Samuel Gigot qui t'explique que pour lui, son rêve, ça n'a pas été de jouer au Real Madrid, ça n'a pas été de jouer à Manchester United, mais c'est de jouer à l'OM, que pour lui, il joue dans le meilleur club du monde. Il explique que lui, il dit ça. Il dit pour moi, je joue dans le meilleur club du monde.
Non, mais
c'est un gamin de la région. Oui. Et il explique aussi qu'en tant que gamin de la région, il a encore plus la pression et que peut-être en début de saison, c'est un petit peu joué sur ses performances parce que il sent que il est vu, épié, observé par sa famille, par des gens qui connaît. Et je trouve que là, tu vois, c'était vraiment une partie intéressante de l'après-midi. Moi, je regardais les deux conférences de presse en live. Et puis bon, c'est normal qu'on parle de ce qui s'est passé avec Tudor, mais saluons quand même le fait que, à l'heure où on parle de transferts, de joueurs qui partent à droite, à gauche, etc., t'as quand même un mec qui, certes, n'est pas Moser, mais il est dans un club il est prêt à crever pour ce club-là. Et je trouve, c'est quand même, moi, je suis peut-être un peu naïf, mais moi, je trouve ça assez émouvant.
C'est beau. Non, mais t'as raison, c'est beau. C'est beau de voir un jeune qui joue dans le club de son enfance, le club qui l'a fait rêver étant petit. Après, quand il dit, c'est le meilleur club du monde.
À ses yeux, il le pense.
Pour lui, oui, il le pense, bien sûr. Que le Real l'appelle, tu vas voir, il le pense toujours.
Peut-être qu'on regarde sa carrière à Gigot aussi, et puis de là par où il est passé. Être aujourd'hui à Marseille, c'est la plus belle chose du monde.
Il était libre, il avait des offres réelles avec un plus gros salaire.
Bien sûr, mais voilà. Je pense que si demain le Real Madrid l'appelle, il ne va pas dire ça, je te le dis. Il ne va pas dire non, j'ai pas rêvé du Real.
C'est évident. C'est évident
ton problème, Moussa, c'est que t'es pas sentimental.
Si, moi j'accepte l'émotion, ce que racontait Jonathan. J'accepte le fait qu'il ait un stress supplémentaire parce que c'est son club, c'est sa ville. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ça va deux minutes. Je te jure que Liverpool l'appelle, tu vas voir s'il va pas être avec autant de sentiments à Liverpool.
Merci Morvan. On a fait le 32-16. Tu nous rappelles quand tu vas rappeler samedi soir.
Les gars, bonne soirée, bon débat. Et puis, bon match pour nous, pour Monaco.
Ce sera samedi soir à 21h. Parlons de Monaco un peu, les gars. Tiens, écoutons Youssouf Fofana. J'ai oublié, tout le monde était dispo à Monaco. Il y a un suspendu. Mohamed Camara ne sera pas là samedi soir au Vélodrome. Écoutez Youssouf Fofana en conférence de presse tout à l'heure. La question, est-ce qu'on considère ce déplacement comme charnière dans la saison de l'AS Monaco?
On se met pas de pression par rapport à ça. Les deux dernières années, on a montré qu'on pouvait se réveiller au bon moment. Là, on n'est pas très loin. Donc, franchement, j'envoie un message à tout le groupe. Ce serait super top si on se réveille dès maintenant au lieu d'attendre la fin.
C'est vrai, ça c'est les saisons traditionnelles monégasques. Tu démarres mal et tu finis en trombe.
Du coup, au vu des chiffres que tu nous as donné tout à l'heure, ils se sont quand même déjà réveillés. Le problème, c'est que en Coupe de France, ils ont eu des problèmes et que des fois, c'est vrai qu'ils ont perdu des matchs que personne ne les attendait à perdre. Mais dans l'ensemble, ils font quand même un parcours très cohérent depuis quelques mois.
Quand vous comparez les deux effectifs, les groupes, alors il y a plus de profondeur à Monaco, certes. Il y a un groupe plus resserré, plus cohérent à Marseille, un style plus clair également. Quel est le groupe le plus qualitatif quand vous regardez Monaco,
du projet de jeu. J'ai pas peur de dire que c'est Monaco.
Monaco aussi, ouais. Je suis d'accord.
Ça dépend du projet de jeu. Le projet de jeu à la base de Philippe Clément, c'est plus un projet de jeu, basé sur la possession de balle, basé sur le pressing à la perte du ballon. Mais on va dire que Igor Tudor a réussi à, en tout cas pour l'instant, on va voir sur le reste de la saison, mais à imposer une patte quand même plus claire. Philippe Clément, on sait qu'il est quand même dans un environnement à l'AS Monaco qui est particulier. C'est un très grand club, c'est un très beau club, mais les joueurs, ils sont quand même dans un certain confort, que ce soit financier ou sportif, dans le sens où les objectifs sont toujours là, mais c'est pas les supporters qui te mettent la pression. Tu joues quand même, franchement, moi je suis désolé, mais on parle très peu des affluences à Louis II, mais c'est quand même particulier.
Ça va mieux.
Mais c'est quand même particulier.
Cette saison, ça va mieux.
Vu les joueurs qui sont à l'AS Monaco, tu te dis quand même, tu arrives là-bas, ça doit te faire un sacré choc.
Non, mais quand on dit, moi, je pense que par rapport à des Monaco millésimes précédents, il y a pas de stars. On a eu des Monaco avec des vraies stars européennes Kev, c'est un sacré joueur pour les amateurs de foot.
C'est pas un Morientes, quoi, c'est ça?
C'est pas un nom qui transcende un petit peu le cercle des suiveurs au quotidien de la Ligue 1. Après, Nico, c'est vrai, la pression que t'as apportée, elle est quand même hyper importante parce que Mohamed Camara, c'est quand même très important pour le milieu de terrain.
Ah oui,
c'est le mec qui tient un petit peu tout.
C'est l'équilibre avec Fofana, c'est l'équilibre de l'équipe.
L'agressivité, l'engagement, c'est lui qui apporte ça.
Et moi, je te rejoins totalement, Kevin, sur ce que tu disais à propos de ces influences extérieures qui viennent déranger la construction de l'effectif monégasque. On le rappelle, hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Ils ont quand même perdu Badiachil, qui était un titulaire indiscutable de l'équipe. Alors oui, il y a Maripane, il connaît bien la maison, le duo marche bien avec Dizazi, mais voilà, tu dois perdre aussi des joueurs, tu dois revendre. Il y a une sorte d'instabilité au front de l'attaque, une fois Mbolo, une fois Ben Yedder, donc on ne sait pas trop qui joue. Heureusement que Ben Yedder a assez d'expérience pour bien préparer ce genre de match et bien préparer les matchs lorsqu'il est titulaire. Donc c'est peut-être que l'effectif plus fourni côté monégasque va poser un problème à un moment donné dans la saison.
Voilà donc pour ce Marseille-Monaco samedi soir, vous serez là pour débriefer ce match dans l'after, l'écouter en direct également.
Il n'y aura pas les frères qui vont s'affronter. Ben Seguir de Monaco, il y a son frère Ben Seguir à Marseille.
Il est le mec qui décide d'aller à Bordeaux, le frère d'ailleurs.
Enfin, bon, c'est un bon
joueur dans les rumeurs. Allez, on revient dans un instant les gars. Real, Atlético de Madrid, coup d'envoi dans une demi-heure. Fred Hermel sera avec nous. On va parler de Camavinga qui est en train de s'installer dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Pourquoi, comment, on en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Oussem Moussaïev, Kevin Diaz et Jonathan Macardy, c'est Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Messieurs, on a parlé de Marseille-Monaco, parlons désormais d'un autre choc, c'est ce soir à 21h, quart de finale de Coupe du Roi. Real Madrid, Atlético de Madrid, coup d'envoi à 21h et Fred Hermel est convoqué ce soir. Bonsoir Fredo.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Ça va mon cher Fredo?
Ça fait bizarre d'être chez les jeunes.
Mais tu t'es jeune.
T'as quel âge?
Dans sa tête. 27, Fred, dans ta tête,
27, il a 26-27 ans.
28 peut-être.
Dans ma tête, d'après mon neveu, j'ai 8 ans. Mais en vrai, je vais avoir 53 ans vendredi prochain.
Ouah, tu les fais pas du tout.
Ah. Ouais, dommage, t'en pas un lundi soir pendant les drôles de dames. On aurait fait un petit truc.
Bah, tu peux me faire un petit gâteau.
On va prévoir.
D'après, ça sera le 6. Hein.
On va prévoir quelque chose, mon cher Fredo. Fredo, avant qu'on parle de la tension, l'énorme tension autour d'un joueur au Real, Vinicius Junior, la Fédé espagnole s'est également emparée du sujet. La composition, est-ce que Camavinga est titulaire?
Oui, il est titulaire, mais on s'en doutait, puisqu'à partir du moment où
Chalini
est encore blessé, Camavinga occupe le poste de milieu défensif. Hein, donc, d'ailleurs, ça va... Parce qu'il est vraiment bon, hein, dernièrement. Donc, après, c'est deux Français qui vont jouer leur place. Après, vu le Real joue quand même beaucoup de compétitions, dont la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, voilà, et le Mondial des clubs aussi, hein, bientôt là, il joue le
au Maroc, c'est ça, c'est au Maroc, hein.
Et ouais. Et sur mon Mondial des clubs où il risque de retrouver Flamengo en finale. Donc il y a beaucoup de matchs et Tchouaméni est toujours blessé, mais à un moment il va falloir choisir entre les deux ou il va alterner. C'est-à-dire que Tchouaméni a été jusque-là beaucoup plus performant à ce poste où il avait un profil peut-être beaucoup plus défensif que Camavinga qui, on le sait, était souvent utilisé comme joker en deuxième période, vraiment le joueur box to box qui apportait de l'allant vers l'avant. Mais c'est vrai que là, il est en train de s'améliorer énormément dans la récupération de la balle et il a toujours cette capacité à se projeter vers l'avant. Donc, oui, Camavinga est en train vraiment de s'installer dans cette équipe et c'est tant mieux.
Kroos et Modric, en revanche, sont bien titulaires.
C'est le retour.
Il y a une
c'est
phrase d'Ancelotti en conférence de presse qui en dit long. Il est toujours très honnête, hein, Carlo Ancelotti. Il dit: Kroos et Modric ont conscience de la qualité du groupe. C'est un moment de transition pour l'équipe, le Real, et tout le monde doit l'accepter. Autrement dit, il va falloir s'attendre
à préparer.
Partager un peu plus.
De quoi on a parlé lundi?
C'est exactement ça. Voilà,
tout à fait. Bah oui, les choses, tout le monde vieillit, hein. Donc,
Non, mais ça peut surprendre quand tu vois le mondial que fait Modric, qu'un coach se permette de dire ça.
C'est voilà, une vérité. Il ment pas.
Il est moins bien, Modric, en ce moment aussi.
Ouais, mais le truc, c'est que s'il dit en conférence de presse, c'est parce qu'il aura déjà parlé avant.
Oui, bien sûr.
Bah oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très clair avec les joueurs et voilà. Et alors moi, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant pour Kroos parce que Kroos n'a pas joué le mondial et on sent que physiquement, il est quand même un peu essoufflé. Alors que
Modric, il est pas si âgé que ça en plus.
Non,
mais même pas si âgé d'ailleurs. Il a 33 ans.
Il a 33 ans, mais c'est toujours pareil.
Modric, c'est 37.
Vous rappelez ma théorie du prime avec
l'âge très tôt.
Bien sûr, à l'âge où tu commences. Il y a un moment. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo ou Léo Messi, mais il y a.
Il a eu une vie avec le Bayern avant.
Bien sûr, les gars, ils commencent à 17, 18, 19 ans. Ils ont énormément de voyages, énormément quand même de problèmes physiques et.
Non, puis en plus, dans des clubs,
c'est beaucoup.
Kevin, dans des clubs où ils jouent, plein de compétitions.
Mais bien sûr, ouais,
le nombre de matchs, c'est ça le truc
par saison. Quoi. Ouais.
Fred, moi j'ai une question, toi qui es dans les secrets de Carlo Ancelotti. Je le vois très énervé en ce moment avec Vinicius.
Alors justement,
il y a quelque chose.
T'as raison, Oussem, d'en parler. Raconte tout ce qui se passe parce que là, c'est le sujet en Espagne ce soir, aujourd'hui. On a commencé à en parler lundi, mais ça a pris une autre dimension aujourd'hui à Madrid, mon cher Fredo.
Alors ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, un pont sur une route à côté de Valdebebas, donc le centre névralgique, hein, et le centre d'entraînement du Real Madrid, il y avait une pancarte qui disait Madrid et le Real, et H-A-I-T, et en dessous un mannequin qui représentait un joueur avec le maillot de Vinicius, donc Vinicius pendu au pont. Oui. Là, on a passé un niveau dans l'ignominie. Vinicius est le joueur en Europe, je dis bien en Europe, des cinq grands championnats, qui est victime le plus de fautes pendant les matchs. C'est-à-dire que c'est numéro un. Faute reçue sur lui-même, agression, c'est Vinicius. Il reçoit des insultes racistes. Il est insulté. L'autre jour à Villarreal, par exemple, le gardien Pepe Reina a commencé à l'insulter depuis le banc. Bon, après, il s'est un peu gancié avec lui, mais c'est-à-dire que c'est un peu la bête noire de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est jeune, parce qu'il fait des gris-gris, parce qu'il est technique.
Ça reste que football. Il a pas une attitude un peu différente.
Il a chambré à l'aller contre l'Atlético.
Oui. Oui, il a
vitesse métropolitano, ouais. il a chambré, mais bon, voilà, mais à un moment, quoi.
Non, mais il y a le chambrage, c'est bon, mais là, le problème, c'est que là, on a passé à un niveau supérieur, parce que là, c'est quasiment une menace de mort.
Enfin, que dit notre ami Tebas?
Alors, franchement, moi, le football espagnol m'énerve souvent dans plein de domaines, mais là, j'aimerais bien qu'en France, quand il se passe quelque chose comme ça, il y ait une telle rapidité dans la réponse et une telle unanimité. Tout le monde a réagi. Tebas, la Liga, la Fédé, le secrétaire d'État au sport, l'association des footballeurs professionnels, et la justice, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le comité anti-violence, qui est un truc qui, il y a une réunion lundi au parquet espagnol, c'est-à-dire c'est un organisme à mi-chemin entre les organismes sportifs et le gouvernement et la justice. Voilà, c'est un comité qui est chargé de lutter contre la violence, mais toute forme de violence, la violence raciste, la violence d'insulte, la violence qu'on appelle le mépris pour l'autre, le dénigrement de l'autre, etc. Donc et lundi il y a une réunion d'urgence convoquée pour traiter le
cas de
à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui en disant là c'est et moi je trouve ça très bien.
Oui, mais
une telle réaction tout de suite parce qu'il y aura des sanctions, je pense qu'il y a un mea culpa à faire du côté de la presse espagnogne. Vous savez, en Espagne il y a tous ces débats, ce qu'on appelle les tertulias, et ça fait quand même des mois, voire des années, que on accuse beaucoup Vinicius. C'est-à-dire les anti-Madrid disent que Vinicius provoque, etc. Que finalement, quand il reçoit un tacle violent, c'est bien fait pour lui, il n'a qu'à pas faire de gris-gris, etc. Donc il y a une sorte, ce qu'on appelle en espagnol, el caldo de cultivo, une sorte d'ambiance négative autour de Vinicius. Et le gamin, il n'a rien demandé, hein, c'est encore un gamin. Donc voilà, et ça dépasse les bornes.
Mais ça, t'as raison, c'est très bien qu'il y ait des réactions, que la Ligue espagnole s'en empare. Après, je te dis pas, je suis pas en train de justifier ce qui a été fait de la part des supporters de l'Atlético. J'ai juste rappelé que la potence, c'est une sorte de tradition dans le milieu ultra, et que c'est pas la première fois qu'on voit des joueurs sur potence.
Valbuena à Marseille, 2015.
Voilà, Valbuena à Marseille quand il revient avec le maillot de l'Olympique Lyonnais, par exemple. Et que sans aller jusqu'à dire que c'est bien et que voilà, faut tout excuser parce que c'est une tradition du milieu ultra. C'est juste apporter cet élément-là pour aussi un petit peu dédramatiser.
Moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est une tradition. On doit l'accepter.
Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit.
Parce que c'est une tradition, Vinicius, il doit l'accepter, en fait, c'est ça.
C'est parce que j'ai dit
ça. Avant, il y avait une tradition qui s'appelait la torture, hein, puis bon, on a abandonné cette tradition chez nous. C'est pas mal.
D'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, après la potence, le supporter qui a été ciblé a été jugé. Hein, il a pris quand même 3 mois de prison avec sursis, hein, interdiction de jouer pendant 6 mois.
Très bien. Mais
donc, rien jugement.
Fred, est-ce que il y a eu quand même beaucoup de grands dribbleurs en Espagne, même ces dernières années, etc. Mais comment ça se fait que ça arrive? Bon, alors, ok, c'est Vinicius, il est brésilien, il a dansé, et en plus, il est au Real, etc. Mais il y a quand même eu Rafinha, je pense que c'est un brésilien, et il dribble, il peut danser.
Mais il dribble pas autant, hein.
Ouais, pas comme Vinicius.
Non, mais je veux dire.
Vinicius, il démonte tout le monde, quoi.
Mais c'est quoi le problème? C'est parce qu'il est trop fort, ou il y a un truc contre lui, parce que au début, il était moins bon, puis maintenant, il est très bon. C'est quoi cette frustration générale?
Il est très, très fort. Il énerve beaucoup. C'est quand t'es supporter d'une équipe qui est face à Vinicius, Vinicius, il te démonte les joueurs d'en face.
Est-ce qu'il est réputé pour simuler?
Non.
À l'image, Valbuena était beaucoup sifflé à l'époque à cause de ça, tu vois.
Un petit peu. Et je sais que Ancelotti, lui avait dit, à un moment, il faut que tu acceptes des choses et que tu réagisses pas au quart de tour dès qu'un mec te touche. C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'il simulait, c'est qu'il réagissait à chaque fois qu'on le touchait. Et Ancelotti lui a expliqué que les tacles et tout ça faisaient partie du foot et qu'il fallait pas non plus en rajouter à chaque fois. Mais là, c'est devenu trop, il est devenu la bête noire. Mais aussi, si Vinicius était dans un autre club, ce serait plus facile. Mais il est au Real. Et le Real, comme c'est le club le plus aimé, c'est aussi le club le plus détesté. Oui. Puis le Real, ils viennent de gagner la Liga, ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Et donc, automatiquement, vous savez, en Espagne, il n'y a aucun club qui est autant détesté que le Real. Vraiment. C'est-à-dire, la plupart des gens aiment le Real, mais ceux qui ne l'aiment pas le détestent vraiment. Parce que c'est le grand club qui gagne toujours. Donc, Vinicius, il est un petit peu le symbole de ça. Donc, et il y a une partie de la presse qui est clairement anti-Real en Espagne. C'est une chose qui...
C'est la structuration de la presse en Espagne qui est partisane.
Elle est partisane. Et puis surtout, elle est très nombreuse, quoi. C'est-à-dire, il y a 4 quotidiens nationaux. De tirage national.
Il y a quand même un problème récurrent aussi sur le racisme malheureusement dans certains pays.
Alors je vais te dire, pas tant que ça en Espagne, parce qu'ils ont bien lutté depuis de nombreuses années. Et là, c'est pour ça, ça a été un peu surprenant ce qui s'est passé à Valladolid il y a peu de temps. Mais après, parce que maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des observateurs de la Liga depuis 4-5 ans dans chaque stade, et dès qu'il y a des insultes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire tout ce qui est du mépris pour l'être humain. Les types sont, il y a des rapports faits par les gens de la Liga qui sont là pour écouter ce qui se dit dans les stades, et il y a des et la Liga demande à ce qu'on retrouve ces gens-là et qu'on les expulse. Il y a 13 supporters du Real Madrid, des abonnés, qui lors d'un match Real Barça avaient traité pendant tout le match Messi de d'attardé mental, et ils ont été identifiés et expulsés du Real Madrid.
Ouais.
Donc il y a une vraie politique, c'est-à-dire qu'il y a eu de gros problèmes de racisme pendant de nombreuses années, mais à partir du moment où vous avez des grands clubs comme le Real et l'Atlético qui ont tout simplement éliminé les ultras de leur stade, avec des menaces, je vous rappelle quand même que Joan Laporta, on peut dire ce qu'on veut de lui, pendant un an, lui et sa famille ont été protégés par la police parce qu'ils étaient menacés par les ultras des Boyish Noise, parce qu'ils les avaient interdits de stade. Mmh. Je vous rappelle que la tombe de Pitina, la femme de Florentino Pérez, a été profanée par des ultras sourds, parce que Florentino les avait virés du stade. Même l'Atlético, où il y a encore des ultras, le Frente Atlético un peu limite, avec le changement de stade, ils ont réussi à éliminer un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont donné moins de place à ces gens-là dans le stade. Mmh. Donc après, vous avez des clubs qui caressent les ultras dans le sens du poil, comme Séville, par exemple.
Oh, on a ça en France aussi, tu sais.
Voilà,
exactement, en Ligue 1 aussi.
C'est ce qui s'est passé avec Vinicius à Valladolid, ces insultes racistes, étaient lamentables, mais grâce à Dieu et grâce aux gros efforts qui sont faits en Espagne, ils sont beaucoup moins nombreux que ça a été le cas il y a 20 ans, ou que c'est le cas, par exemple, en Italie.
Tu seras tout à l'heure dans l'after également avec Gilbert pour débriefer ce Real Madrid à Atlético de Madrid. Super match.
Les deux équipes sont en forme. Hein.
Griezmann, bien sûr, est titulaire. Hein. Memphis Depay, toujours pas. Il le sera sûrement dans les prochaines semaines. À tout à l'heure, Fredo, merci.
Salut, Fredo.
C'est dans un instant notre invité dans Génération After, gardien numéro 1 du Toulouse Football Club. Maxime Dupé est avec nous. Et puis le Mercato également à venir. Reste avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty et Oussem Loussaïev. Vous écoutez RMC, 20h46. On suivra à partir de 21h, bien sûr, sur Real Atlético. D'abord, notre invité dans Génération After, gardien numéro 1 du Toulouse Football Club, Maxime Dupé, est avec nous. Salut Maxime.
Salut, bonsoir à tous. Salut
Maxime. Heureux de t'accueillir, Maxime. Ça va bien, hein, Toulouse. Hein. Tout se passe bien pour l'instant à mi-championnat, 12e de Ligue 1, 23 points, 8 de plus que le premier relégable. Comment tu juges cette phase aller, Maxime?
Je pense que tu as
bien résumé
la situation. Ouais. Je pense que c'est un début de saison prometteur. On fait une phase aller plus que correcte pour un promu. Même si je pense qu'on pourrait avoir 3-4 points supplémentaires. On est quand même satisfait de ce début de saison.
Ça dépasse un peu vos espérances ou il n'y avait pas forcément d'objectif de points fixés en début de saison là, pour la mi-championnat?
Non, on s'était pas fixé d'objectif comptable. Même sur l'ensemble de la saison, on veut simplement être... On sait qu'on reste un promu, mais on veut quand même être un promu ambitieux. Et aussi, on essaie de le faire ressentir dans notre jeu.
Et ce qui est intéressant, c'est ça, vous êtes un promu qui joue bien. Et ça, c'est assez rare, sous l'impulsion de votre coach, Philippe Montagnier. Ça, c'est une exigence également qu'il vous donne, le coach au TFC.
Oui, je pense que c'est vraiment l'ADN du club aussi. On a une direction et des dirigeants qui souhaitent justement un football un peu spectacle, aussi bien pour nous, mais aussi pour nos supporters. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place chaque week-end pour pouvoir donner du plaisir.
Et Maxime, bonsoir. Alors, bonsoir. Le revers de la médaille, c'est d'être dans cette équipe qui joue très très bien, mais c'est aussi d'être dans une équipe qui expose beaucoup son gardien de but. C'est ta première saison en tant que numéro 1 en Ligue 1. Je pense que tu as dû en rêver depuis un bon bout de temps, surtout après que ça arrive si tard. Mais toi, tu le vis comment d'être voilà dans ce genre d'équipe où bah forcément tu vois du beau jeu devant toi, mais tu vois aussi des contres arriver à 1000 à l'heure.
Oui, c'est ça. Il faut réussir à essayer de faire la part des choses et d'avoir un maximum un équilibre. Et c'est ce qu'on essaye de faire de mieux en mieux, surtout en deuxième préparation au mois de décembre. On a vraiment essayé d'axer sur ce point-là, sur le fait d'être un peu plus équilibré et justement de pouvoir subir un peu moins malgré notre jeu offensif.
Tu parlais, je me permets, Nico. Maxime, tu parlais de cette part d'envie de jouer au football. Quelle est ta part à toi dans la participation et la création du jeu? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te demande de faire?
Il y a une stat qui était sortie il y a quelques semaines de ça. Je crois que j'étais le gardien, voire peut-être même le joueur, d'une manière générale, en Ligue 1, qui avait touché le plus de ballons. Donc ça montre un peu l'état d'esprit.
La première relance.
Ouais, voilà.
J'avais même fait une passe décisive
exactement en Ligue 2 avec Toulouse. Ligue 2, hein.
C'était Adli, non, c'était pas ça?
À Amine Adli, une passe décisive de oui, Maxime Dupé à Amine Adli. Kevin.
J'ai une question pour toi, Maxime. Est-ce que tu parles flamand maintenant?
Non.
Tu parles pas flamand encore, mais comment vous faites, bon, toi qui es un des joueurs français.
21 nationalités, Kevin.
Ouais, voilà. Comment tu fais, toi qui dois être quand même en tant que gardien, je pense, un des leaders forcément dans cette équipe, même si on sait que vous avez toujours un poste à part avec un entraîneur, etc., et quelques séances aussi à part. Mais comment vous faites justement pour créer, t'as parlé de cette deuxième préparation, de la première, comment vous arrivez à créer quand même une osmose avec toute cette nationalité, avec ces langages qui peuvent être différents?
Ben, déjà, la première des choses, c'est que quand le club recrute les joueurs, normal le côté footballeur.
Ah oui.
Mais je pense qu'il y a aussi le côté humain qui rentre en compte, parce que on a pu le voir sur l'ensemble des recrutements qui a été fait. On a quasiment eu que des bons mecs qui ont eu une envie de s'adapter et justement d'avoir une bonne intégration. Et donc forcément que pour nous c'est plus facile. Mais évidemment qu'après au niveau du langage c'est pas toujours évident. On parle pas mal anglais. Mais c'est bien, les nouveaux font les efforts pour apprendre le français.
Des Norvégiens, des Belges, des Jamaïcains également.
C'est l'Eurovision.
Danois.
Tu sais, ouais, je fais une bande espagnole. C'est la parole où ça. Mais c'est ce qui est fou, c'est que là, ça fonctionne.
Ouais.
Mais ce qui avait un petit peu causé la perte de Toulouse, de la descente en Ligue 2, c'est que justement, un des problèmes qui avait été identifié, c'est qu'il y avait trop de nationalités et que les joueurs ne s'entendaient pas. Et ça peut être à double tranchant. Soit t'es dans le cas où, bah, l'année de la descente, t'as trop de nationalités, les joueurs arrivent pas à communiquer entre eux, il y a personne qui arrive à faire le lien, ça fonctionne pas, tu descends. Là, t'as ces 21 nationalités et je pense que le groupe doit tellement être bien géré que ça pose pas de problème.
Oui, et puis il y a pas que la gestion, il y a aussi la conception. Et comme l'a dit Maxime, on sait que Damien Comolli et son équipe travaillent.
Est-ce qu'il y a des data qualité humaine? Ça existe, ça?
Oui, bien sûr. Oui,
data qualité, non.
Bien sûr. Mais si, mais tu sais que la plupart des scouts aujourd'hui, ils bénéficient de data sur tous les aspects et même l'aspect humain. En fait, ils se renseignent, ils ont des bases de données et ils ont des data qui ressortent.
Oui, oui, d'accord, c'est pas des statistiques,
non,
des notes,
mais c'est pas des robots.
Tu sais, t'as un truc, je ne sais pas s'ils le font à Toulouse, mais t'as un truc, par exemple, très très intéressant que moi j'ai fait dans les formations d'entraîneurs, mais que honnêtement je pourrais utiliser si j'entraîne à un certain niveau. C'est par exemple le test de personnalité MBTI,
ouais,
qui te donne un profil quand même assez clair, en tout cas me concernant, et assez juste. Dans pas mal de domaines, mais dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, etc. Et donc, il y a quand même des tests qui sont possibles. Mais après, à partir du moment où de toute façon, tu constate que l'effectif est bien formé, parce que footballistiquement c'est des profils, je sais qu'ils ont un algorithme où on m'expliquait que ils envoient comme ça la fiche d'un joueur, et donc ensuite c'est des mecs qui sont aux États-Unis qui ont l'algorithme, qui rentrent le joueur dans l'algorithme et qui peuvent donner une note à ce joueur pour dire voilà, lui il passe dans le projet, lui il passe pas.
Maxime Dupé, invité de Génération After, gardien du Toulouse Football Club. Un appel d'un supporter du TEF. Benjamin est avec nous. Salut Benjamin. Bonsoir Benjamin, bienvenue dans Génération After.
Salut Benjamin.
Merci beaucoup.
Salut Benjamin.
Maxime Dupé t'écoute, c'était une question à lui poser j'imagine.
Salut Maxime. Salut Benjamin. Ouais, d'abord, très content de passer antenne. Et effectivement, Max est un grand artisan de la remontée en Ligue 1. D'ailleurs, on parlait de la data, mais c'est le premier joueur qui a été recruté avec la data après deux saisons exceptionnelles à Clermont. Il a bien confirmé. Au début de l'année, un nouveau gardien était arrivé pour le mettre en concurrence. Et je voulais savoir si finalement, ça n'avait pas encore plus poussé pour devenir rester numéro 1 et faire la saison qu'il fait actuellement. Je trouve que c'est un des gardiens les plus sous-cotés de Ligue 1.
Maxime.
Alors peut-être que ça m'a piqué inconsciemment, mais honnêtement, je n'ai pas changé ma façon d'être, ma façon de travailler. J'ai toujours le même sérieux. Alors cette année, ça fonctionne. C'est vrai que je suis beaucoup plus décisif. Après, comme on l'a dit en début d'émission, je suis un peu plus sollicité que la saison dernière. Donc forcément que ça se voit plus. Mais voilà, le poste de gardien fait aussi. C'est un poste comme les autres. Il y a besoin de concurrence pour pouvoir être performant. Et puis ça amène à être à un bon niveau.
Benjamin, merci Benjamin d'être venu poser une question à Maxime. Si tu veux lui passer encore un petit message, tu peux le faire évidemment. Maxime t'écoute. Moi j'avais aussi une question à poser à Maxime. On demande souvent à un joueur de champ qui passe de Ligue 2 à Ligue 1, est-ce que ça change techniquement en termes d'intensité, techniquement?
Ouais.
Est-ce que c'est le cas pour un gardien? Est-ce qu'il y a un changement, Maxime?
Oui, pour moi il y a le gros changement, c'est la qualité des joueurs, principalement offensifs, où vraiment ça va beaucoup plus vite, ça frappe plus fort, c'est évidemment plus précis. Et pour moi, c'est vraiment de ce côté-là où j'ai senti une grosse différence par rapport à la Ligue 2.
Oussem.
Attention, Maxime, là, c'est la question relou des journalistes. Est-ce que t'es prêt? Je sais pas si t'es prêt. T'as été champion du monde en jeune, en équipe de France.
U20 en 2013.
Ouais.
Alors, t'as de l'expérience maintenant, t'es pas un jeune gardien. Est-ce que le maillot de l'équipe de France, tu te dis, je me laisse 2-3 saisons pour essayer de le récupérer? Est-ce que tu vas te retrouver une origine lointaine, toi aussi, pour aller jouer avec une autre nation? Est-ce que tu penses à une équipe nationale? Est-ce que tu penses à l'équipe de France?
Non, honnêtement, pas du tout.
Ouais, pas du tout.
Honnêtement, avec le nombre de joueurs flamands, tu pourrais presque prétendre à la sélection belge.
Ouais. Non, on a que un joueur belge, mais on a quelques joueurs hollandais, c'est vrai. Donc on a pas mal de joueurs qui parlent le hollandais. Mais.
Oussem l'a dit à l'instant, tu es champion du monde avec les U20 en 2013, époque génération Pogba, Thauvin, Zuma, Areola, Vertout pour ne citer que.
En plus, Areola, il peut te laisser sa place, pourquoi pas.
Déjà.
Et
Yasanogo qui a mis 4 buts sur ce mondial en Turquie. Qu'est-ce que tu en gardes 10 ans plus tard, Maxime? Est-ce que tu dis que tu as mené la carrière que tu espérais mener? Tu avais 19 ans, tu en as 29 aujourd'hui.
Mais la première des choses, c'est que dans cette équipe-là, on avait déjà de très grands joueurs.
Ah oui, une génération incroyable.
Ouais, voilà, une génération incroyable. Moi, j'avais pas encore débuté en professionnel. Je jouais encore en réserve au FC Nantes. Donc honnêtement, même si je faisais partie du groupe, je ne savais pas vraiment où j'allais. Donc moi, je suis très content de la carrière que j'ai.
Oui.
Elle est loin d'être finie.
Oui.
Je n'ai que 29 ans et comme vous l'avez dit, c'est ma première saison véritable en tant que numéro 1 qui se passe bien. Donc j'aspire à encore de nombreuses saisons.
Tu
comme
te fixes
ça.
Quoi comme objectif, tu vois, une fois que tu auras raccroché les crampons? Ça serait quoi? D'avoir au moins joué
ton
une
club
fois
de
la Coupe d'Europe
aussi, toi aussi, ton club de cœur.
Non, mais je sais pas, ça serait d'avoir joué au moins une fois la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Par exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas une coupe d'Europe? Mais honnêtement, je me fixe pas de limite.
L'équipe de France, Maxime.
Honnêtement, je me fixe pas de limite. Je veux aller le plus haut possible. Et voilà, et déjà, dès cette saison bien terminée.
Et tu joueras, tu peux aussi gagner une Coupe de France, hein, ce serait pas mal, Maxime. Hein, vous êtes encore en course, en lice. Vous jouerez Reims en huitième de finale de la Coupe de France. Tiens, j'avais une question subsidiaire. Quel est l'attaquant que tu crains le plus, toi, en tant que gardien en Ligue 1, s'il fallait en craindre un seul?
Moi, certainement un de ceux du PSG, que ce soit Mbappé, Messi ou Neymar.
D'accord.
Parce que bah, voilà, c'est des top joueurs de classe mondiale et qui peuvent faire une différence à tout moment.
Et vous irez au parc hein, avec le TFC le 5 février prochain, PSG Toulouse. Merci Maxime, c'est un plaisir de t'accueillir dans Génération After.
Merci à vous.
Et bonne route à toi également, elle est loin d'être terminée. Je remercie Benjamin également d'avoir fait le 32-16, d'avoir posé une question à Maxime Dupé. Voilà, on essaye régulièrement d'inviter des acteurs de Ligue 1 qui ne sont pas sous la lumière au niveau national.
Et il y a souvent en plus des histoires à raconter.
Tout à fait, c'est
intéressant. La nouvelle génération.
J'aurais cru qu'il répondrait à Kolasinac, vu le but que Kolasinac lui a mis au Vélodrome il y a longtemps.
Il voulait la sortir, c'est pour ça qu'il a payé
devant lui d'ailleurs. Ça m'étonne de toi. Dans un instant, le PSG doit être plus clair avec ses jeunes joueurs à Vitranche et Doussem Loussaïef. Dans quelques secondes, et puis nous allons parler de Montpellier et le Mercato Show à venir. Restez avec nous, vous écoutez RMC, 20h58.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.